et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Je vais parler de voir Dieu. Est-ce que vous avez déjà eu envie de voir Dieu?
Oui. C'est Abraham qui l'a vu le premier, en fait.
C'est Adam.
Et justement, d'ailleurs, entre Adam et les Sumériens, parce que Abraham, il vient de Ur, c'est pas pour rien qu'il est Sumérien.
Non, Adam, il vient pas de.
Non, là-bas. Non,
Adam prédate toutes les villes.
Oui, oui, non, mais je veux dire Abraham.
Abraham, il vient d'Ur.
Parce que les Sumériens, c'était la première grande civilisation. Avec les Akkadiens, les Amorites, les Cananéens. Non, c'est pas pour rien qu'Abraham vient d'Ur. Ou là-bas, ils avaient un autre dieu, quoi. En dit, ça.
Bref.
Oui.
Tout le disait Jean. Non, peut-être pas.
Donc, on peut penser qu'Abraham vient d'Ur.
Adam, il marchait avec Dieu dans son jardin.
Mais il était comment Dieu alors?
Bon jardin.
Oui, mais il marche avec lui. Tu veux dire qu'il était à côté de lui comme ça? Ou il était en haut? Il marche avec lui.
Il n'y a pas beaucoup de détails. C'est marqué, ils marchaient ensemble dans la fraîcheur du soir.
Oui, parce que quand tu dis marcher avec quelqu'un, tu imagines quelqu'un.
Dieu a été révélé à nous à travers Jésus-Christ. J'ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Si vous voulez savoir quelque chose sur Dieu, il faut étudier Jésus. Dans le prologue de l'évangile de Jean, les 18 premiers versets, Jean prend le temps de nous présenter le concept selon lequel Jésus est Dieu dans la chair humaine. On a déjà vu les 13 premiers versets. On arrive au verset d'aujourd'hui, verset 14. Donc le verset 14. Et la parole a été faite chair. On va s'arrêter là. Ça nous ramène au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est bizarre, il y a des versets qu'on connaît, qu'on les a inscrits dans la mémoire. Et je suis sûr que si je dis, car Dieu a tant aimé le monde, vous êtes capable de compléter le verset. Ce verset-là, pour moi, c'est un verset que je peux le citer en anglais, en français, en hollandais, en grec. Ça colle. Donc, on a déjà parlé de cette parole, logos, en grec, et on a déjà vu que Jésus est cette parole, et c'est la parole parlée qui a créé le monde. Et puis au verset 14, la parole a été faite chair. Ça parle de la façon dont Jésus est venu sur terre. Il s'est revêtu de la chair humaine. Et quand on y pense, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est la vérité la plus profonde. La parole a été faite C'est-à-dire que le Dieu infini est devenu fini. Le Dieu éternel était confiné dans le temps. Le Dieu invisible est devenu visible. Le surnaturel est devenu naturel. Et encore plus incroyable encore, en devenant homme, Jésus n'a pas cessé d'être Dieu. Il était Dieu dans la chair humaine. Dieu a revêtu la chair humaine et il a habité parmi nous. Le verbe habiter dans le grec, c'est skenoo. C'est un verbe qui veut dire tabernacler, tabernacler. C'est un verbe qui n'existe pas en français, mais vous comprenez le sens. Il y a une notion de vivre dans une tente. Et ça rappelle, surtout les Juifs, ça leur rappelle l'époque pendant l'Exode où Dieu habitait dans la tente. Même quand ils sont établis en Israël, il y avait une tente, avant qu'ils construisent le temple, il y avait une tente, et c'est là que Dieu habitait. Et plus loin, nous avons contemplé sa gloire. Ça parle de Dieu, et nous avons contemplé sa gloire. Dans la Bible, la gloire, c'est le mot utilisé pour décrire la lumière brillante de la présence de Dieu. En hébreu, c'est le mot kavod. Et Jean, il a écrit, nous avons contemplé sa gloire. Et pour moi, ça parle de Matthieu 17. Le « nous », c'est Pierre, Jacques et Jean.
Ah oui.
Et ils ont vu Jésus en haut de la montagne.
Tout brillant.
Il a été transfiguré et il était brillant.
Brillant.
Il brillait. Son corps humain ne cachait plus la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui brillait à travers son humanité. Donc quand Jean dit nous avons contemplé sa gloire, nous avons vu cette gloire briller, nous avons vu son kavod. Et je veux vous lancer un défi ce matin. Parce que cette gloire transpercée l'humanité, le divin en Dieu, en Jésus, transperçait l'humanité et était visible. Et dans Colossiens 1, verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. Nous avons ce même élément divin en nous. Dans Éphésiens 3, verset 17, Christ habite dans vos cœurs par la foi. Nous avons cet élément divin en nous. Dans 1 Jean 4, verset 4, car celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est en nous. Est-ce que nous laissons briller la gloire de Dieu à travers notre forme humaine? Qu'est-ce que les gens voient quand ils nous regardent? Est-ce qu'ils voient Jésus briller à travers notre humanité ou est-ce que notre humanité cache la divinité de Dieu? Qui voit la grâce de Dieu, son amour, sa miséricorde, son pardon? Ou est-ce qu'il voit quelqu'un de coléreux, d'amer, rempli de haine et du manque de pardon? Jean ont dit, nous avons contemplé sa gloire. Autrement dit, quand nous regardions Jésus, c'est comme si nous voyions Dieu. Je prie qu'on puisse dire cela. Lorsque les gens entrent en contact avec nous, que leur réaction soit, j'ai entrevu Dieu. Souvent, trop souvent, lorsque les gens entrent en contact avec nous, ils n'aperçoivent pas Dieu. Une personne en colère, une personne imparfaite, une personne qui ne pardonne pas, une personne remplie de haine. Quand on rentre à la maison après le travail, est-ce que les deux à vivre seul, on va laisser les deux qui ne travaillent pas, c'est pas la bonne question. Mais est-ce qu'on voit Dieu en nous? Ou est-ce qu'on marche sur les œufs par peur de réveiller la colère, la fatigue? Jésus est censé vivre en nous. Et si Jésus vit en nous, est-ce que les gens à qui on a affaire ne devraient pas le voir briller? Revenons au verset 14. Deuxième ligne, pleine de grâce et de vérité. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il est parfait. Vous avez cet équilibre entre la grâce et la vérité. Jésus était plein de grâce, plein de bonté envers les autres. Bonté imméritée. Mais il était aussi complètement honnête. Il n'excusait jamais le péché. Je vais vous donner un exemple. Dans Jean chapitre 8, il y a une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Toute seule. Parlera si on arrive au chapitre 8. Et Jésus lui dit dans Jean 8, verset 11, va et ne pêche plus. Il n'a pas excusé son péché. Il lui a dit ne pêche plus. Mais il a aussi dit, il aurait pu la lapider à cause de l'adultère. Et Jésus était plein de grâce. Plein de vérité. Va, ne pêche plus. Détourne-toi de tes péchés. Et plein de grâce. Va, tu es libre. Certains d'entre nous sont rempli de vérité, mais manque de grâce. On a tendance à être comme ça avec les enfants. On commence à être un peu dur. C'est normal, c'est comme ça que nos parents étaient avec nous. Mais trop de vérité et pas assez de grâce. Et on devient borné, on devient dur, on devient insensible. Trop de grâce et pas assez de vérité, on devient mou. Oui, c'est plus amusant de côtoyer quelqu'un qui est rempli de grâce plutôt que de vérité, mais si on est comme ça avec nos enfants, ils n'auront aucun respect avec nous. Jésus avait l'équilibre parfait entre la vérité et la grâce. 4, verset 22, c'est marqué, donc c'est Jésus, il parlait dans la synagogue, tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Si on est trop rempli de grâce et pas assez de vérité, il ne faut pas se dire que tout le monde va nous aimer. Ce n'est pas le cas. Là, c'était au verset 22, au verset 29, donc tout de suite après, ils ont essayé de le jeter du haut de la montagne. Juste après les paroles gracieuses de Jésus, ils ont essayé de le jeter du haut d'une falaise. Ne pensez pas que tout le monde va vous aimer si vous êtes trop gracieux, ce n'est pas le cas. Il faut cet équilibre entre la grâce et la vérité. Au verset 15, Jean, donc là c'est Jean-Baptiste, lui a rendu témoignage et c'est écrit, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » Jean-Baptiste était plus vieux que Jésus, il avait 6 mois de plus que son cousin, mais il reconnaissait la vérité, la nature éternelle de Jésus. Il savait que Jésus avait toujours existé. Et le mot précédé dans le grec, c'est un mot qui est utilisé dans les cercles militaires pour dire que quelqu'un est plus haut gradé. Jean reconnaissait bien que Jésus était plus important que lui-même. Verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce. Là, ça part d'une grâce éternelle, une grâce inépuisable, une grâce continue. Une grâce en abondance. Comme dans Romains 5, verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'y a pas de limite à la grâce. Le texte dans le grec, de Jean 1, 16, c'est littéralement une bénédiction sur une autre. Ce sont des bénédictions progressives qui nous parviennent en tant que chrétiens. Chaque expérience de la grâce de Dieu est suivie et remplacée par une autre. Les Israélites, quand ils étaient dans le désert, la manne tombée tous les matins. Une abondance de manne, jour après jour, encore et encore. Et la grâce de Dieu, c'est pareil. Après une bénédiction, il y a une autre, et une autre, et une autre. Après une grâce, une autre, et une autre, et une autre. Grâce sur grâce, c'est marqué. Trop de chrétiens considèrent la grâce uniquement en termes du salut. La grâce qui nous sauve, sauvé par la grâce. Mais pour Jean, il y a une grâce qui nous garde, une grâce qui nous bénit, une grâce qui ne cesse de nous bénir. C'est une grâce continue, permanente, éternelle, inépuisable. Des fois, on se dit que on a épuisé la grâce de Dieu. Il arrive à nous. On est trop déçu. On se demande si on peut revenir et rétablir la relation qu'on avait avec Dieu avant. Il n'y a pas de limite. Il y a grâce sur grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Les bras du Seigneur sont grands ouverts. Tout à l'heure, en attendant que vous veniez pour qu'il puisse déverser sa grâce sur grâce sur grâce sur vous. s'est dit, mais j'ai été trop loin. J'ai été trop loin. J'ai utilisé le dernier morceau de grâce qui m'était attribué, et puis le Seigneur vient avec un sourire. Voici encore un peu de grâce. On ne peut pas épuiser la grâce de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire que il faut aller pécher pour que la grâce abonde. Dans Romains 6, les deux premiers versets, c'est marqué demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Verset 2, loin de là, ce fameux mégonoïto, c'est que ce ne soit pas ainsi. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 17, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean compare l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la loi et la grâce et la vérité. La loi, c'est les 10 commandements qui nous ont été donnés pour nous montrer que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin un sauveur. Et puis Jésus, il arrive avec la grâce et la vérité pour nous sauver de notre condition pécheresse. On ne peut pas apprécier la grâce et la vérité si on ne se rend pas compte qu'on est pécheur. On a besoin de se regarder dans le miroir des 10 commandements. Alors, je vous parle des 10 commandements comme un miroir. Ça nous montre qui nous sommes. Comme le miroir dans lequel vous vous êtes regardé ce matin. Les femmes ont dû arranger certaines choses sur le visage. La semaine dernière, j'ai parlé du cosmos. L'arrangement, l'ordre dans l'univers, la disposition des choses dans l'ordre. Le cosmos, c'est là que vient le mot cosmétique. Donc on avait besoin de remettre l'ordre dans les choses qui étaient en désordre suite à hier soir. Le miroir nous a montré ce qui était en désordre. Et vous avez appliqué les produits cosmétiques pour remettre tout ça en ordre. Et les 10 commandements sont un miroir pour nous montrer qui nous sommes, afin que nous puissions nous laver dans le sang de Jésus. C'était le but de la loi. Le problème, c'est que trop souvent, on n'explique que la moitié de l'évangile. Nous mettons la charrue avant les bœufs. On s'approche des gens, on dit, voilà, Jésus a le remède à votre maladie, mais on n'aura pas convaincu qu'ils avaient une maladie. On leur dit, Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Très bien, très bien. Pourquoi il a fait ça? Jésus t'aime, il a un plan pour ta vie. Mais ma vie va bien. On met la charrue avant les bœufs. Ils ont besoin de voir qu'ils ont péché contre un Dieu saint avant de se rendre compte qu'ils ont besoin. C'est le but des 10 commandements. Je vais vous l'illustrer en n'en prenant que Dieu. N'oubliez pas, il y en a 10. Je vais en prendre 2, il y en a 8 autres. Exode chapitre 20, verset 15. Tu ne déroberas point. Ça veut dire que tu ne voleras pas. Tu ne prendras pas quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Pour Dieu, il ne se soucie pas de la valeur de l'objet. Un stylo. Un trombone. Un livre que vous avez oublié de rapporter à la bibliothèque. un sachet de sauce au McDo. Peut-être quand vous étiez jeune, vous avez été au magasin, vous avez glissé une part de chocolat dans la poche.
Sucre.
Du sucre dans le café, ouais. Vous vous dites, mais ça fait, ça remonte à 30, 35 ans.
Peu importe le temps.
Soyons francs, vous l'avez volé. Vous avez pris quelque chose qui ne vous appartenait pas.
Parce que sur les petits sachets de thé, il y avait une station service qui était dessinée. Donc moi, je le descends en collection. Donc je l'ai acheté comme ça.
Oui, tu voles. Non, quand tu es dans une station service,
c'est du vol.
Mais non, parce que tu as bien le droit de prendre des sucres.
C'est du vol. À consommer sur place, oui, mais pas à emporter. Tu n'as pas pris un café à emporter. Donc
oui,
tu n'as pas le droit d'emporter le sucre.
Si j'ai pris une qu'un sachet dans mon sucre, dans mon café, au lieu d'en mettre deux, puis que l'autre.
Si
dernier...
tu l'emportes, tu l'as volé.
Ah oui.
Si vous arrivez avec 5 minutes de retard au boulot, vous avez volé votre employeur. Si vous prenez une pause déjeuner trop longue, vous avez volé votre employeur. Si vous avez le droit à une heure de midi et vous prenez 62 minutes, vous avez volé 2 minutes à votre employeur. Elle ne vous appartenait pas. Il vous a donné une heure, vous en avez pris plus. Vous l'avez volé, vous êtes voleur. Je parle ce matin à une bande de voleurs.
Est-ce qu'on a pas avoir les bons du
plat. Mais comme quoi, il y a une loi. Parce que le sucre, il a été abîmé en plus, parce que ça frotte avec une bouteille d'eau et tout. Comme quoi, bien mal acquis pour vite jamais, il y a une partie du sucre qui est abîmée.
La TVA défend, quand on va parler de la TVA,
ça c'est un commandement. Passez à un deuxième. Exode 20, verset 16.
Et tous les péchés ont la même.
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Ça veut dire que vous ne mentirez pas. Les mensonges, les demi-vérités, c'est pareil. Vous vous appelez le patron, vous dites « Je suis pas bien, je vais rester à la maison, mais vous n'êtes pas vraiment malade. » Vous mentez. Le téléphone sonne, vous savez qui c'est, vous n'avez pas envie de lui parler. Dites-lui que je suis pas là. Mais vous êtes assis là, vous mentez. Pour revenir au jour de maladie, si vous avez droit à 5 jours de maladie par an et vous ne les prenez pas, vous les perdez, c'est pas grave. Ne mentez pas. Louez Dieu parce que vous êtes en bonne santé, mais ne mentez pas, ne volez pas. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, c'est marqué « Tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. »
C'est aussi simple que ça. C'est pas quelques menteurs, c'est tous les menteurs.
Essayer de cacher les choses, de dissimuler, de repeindre dessus avec une teinte plus agréable. Ce n'est qu'une demi-vérité, c'est un pieux mensonge. C'est un péché. La limite de vitesse est 80, vous roulez à 82, c'est un péché.
Ah bon ? Pourquoi ?
Parce que c'est la loi, vous désobéissez à la loi, c'est un péché. Donc, une fois que nous avons vu que nous sommes pécheurs, dans le miroir de la loi, la loi de Dieu.
C'est la loi des hommes, ça.
Dans la Bible, c'est marqué respecter les autorités. Dans ce cas-là, la grâce et la vérité peuvent être appréciées et reçues. Imaginons que vous avez commis un crime. Vous avez été arrêté. Quelqu'un vous a enregistré sur vidéo. Quelqu'un a sorti dans son téléphone portable et vous a enregistré. Vous êtes là devant le juge, il regarde la vidéo, il vous déclare coupable. Il vous impose une amende d'1 million d'euros. Vous êtes en mesure de payer 1 million d'euros. Moi non plus. Donc il dit, emmenez-le en prison. Et vous y allez. Mais au déception dans ma salle. Il dit arrêtez tout, j'ai tout abandonné, j'ai tout pris, j'ai tout vendu, j'ai 1 million d'euros, je paye sa dette. Que penseriez-vous de cette personne qui a payé votre dette?
Comme je dis.
L'apprécierait, je pense. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé notre dette pour nous. Il a pris notre place sur la croix. Nous sommes tous voleurs, nous sommes tous menteurs. Ça aurait dû être nous sur la croix. Mais Jésus a tout abandonné, il a quitté le ciel, il a abandonné les richesses éternelles du ciel pour venir prendre ma place. Donc maintenant, quand quelqu'un me dit Jésus est mort sur la croix à ta place pour ton péché, je comprends. J'apprécie ce qu'il a fait. Parce que je sais que je suis pécheur, j'ai péché contre un Dieu saint, parce que la loi, les 10 commandements nous l'ont montré. Je ne voulais pas trop vous donner de mauvaises nouvelles, j'ai parlé que de 2 commandements, il y en a 10. Et la Bible dit que si vous avez enfreint une seule des lois, vous êtes coupable d'avoir enfreint toute la loi.
Est-ce que les péchés ont la même gravité?
Si tu passes un examen et pour réussir l'examen tu as besoin de 100%, si tu fais une petite faute, une grande faute, c'est quoi la différence? Nous avons regardé 2 commandements, il y en a 8 de plus, et notre conscience qui est le juge qui se tient dans l'audience de notre esprit a dit je suis coupable de celui-là, je suis aussi coupable de celui-là. Nous ne nous trompons pas, nous sommes coupables d'avoir enfreint tous les commandements de Dieu. La Bible dit si vous avez enfreint une seule des lois, vous êtes coupable d'avoir enfreint toute la loi. Et dans Romains 6, verset 23, c'est marqué « Le salaire du péché, c'est la mort. » Le péché, c'est la violation d'un seul des commandements de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu prendre notre place. Donc maintenant, nous pouvons apprécier ce qu'il a fait pour nous. Mais arrêtez de dire aux autres que Jésus est mort pour leur péché, sans d'abord leur montrer qu'ils ont péché. Arrêtez de dire voici le remède de votre maladie, sans leur montrer qu'ils ont une maladie. Expliquez-leur la loi, ensuite vous pourrez les emmener à la croix. Ils n'apprécieront pas ce que Jésus a fait sur la croix sans avoir apprécié, sans avoir regardé dans le miroir la loi, sans avoir compris la nécessité de se maquiller. John Wesley, un évangéliste anglais au XVIIIe siècle, il a déclaré qu'une personne doit d'abord être tuée par la loi avant de pouvoir être ramenée à la vie par la grâce. Nous avons besoin de nous considérer impuissants, désespérés, avant de pouvoir apprécier la grâce de Dieu. Donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ne dites pas « Jésus est mort pour ton péché ». Ils ne comprendront pas tant qu'ils n'ont pas vu qu'ils ont péché contre un Dieu saint. Revenons au verset 18 de Jean chapitre 1. « Personne n'a jamais vu Dieu ». Verse 18, John 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu.
Stop. Vous avez lu l'Exode? Vous avez vu dans Exode chapitre 33 au verset 11, c'est marqué?
Ben oui, c'est ce que j'allais dire.
L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. moi je vous dis que Moïse parlait à Jésus. Chaque fois que quelqu'un a vu Dieu, c'est toujours à travers la personne de Jésus-Christ. Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Comment je le sais? Parce que dans Exode 33, verset 20, aucun homme ne peut voir le visage de Dieu et vivre. Aucun. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, en parlant de Dieu, c'est marqué qu'il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Cette lumière inaccessible, c'est la lumière de sa sainteté, c'est la lumière qui brillait à travers Jésus sur le monde de la transfiguration. Et cette lumière nous brûlerait vif, parce que nous sommes pécheurs. Donc chaque fois que quelqu'un a vu Dieu, c'est toujours à travers la personne de Jésus-Christ. Et le reste du verset 18 le confirme. Il dit « Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et le mot grec pour « fait connaître » c'est « exégéomai ». Et ça veut dire « étaler, déployer un enseignement ». C'est le mot qui nous donne en français le mot « exégèse ». C'est un mot que vous utilisez tous les jours, Francis. J'en suis convaincu. Exégèse, c'est « sortir » un enseignement de quelque chose.
Exégèse.
Ce que Jean est en train de nous dire, c'est que tout ce que Jésus est, tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus dit, explique qui est Dieu et ce qu'il fait. En d'autres termes, Jésus nous dit qui est Dieu le Père. De l'enseignement. C'est la clé quand on parle aux autres. Focalisez-vous sur Jésus. Alors, j'ai essayé de faire un verbe du mot exégèse. Ce serait exégéter. Donc, exégéter Jésus. Expliquer, exposer qui est Jésus. Arrêtez de nous laisser entraîner par la politique, le sport, la religion, l'histoire de l'Église, par les questions de savoir si la mère de Marie s'appelait Anne ou pas. Restez, je te vise pas, hein. Restez concentrés sur Jésus-Christ. Ramenez la discussion sur Jésus-Christ. Si vous avez le bon Jésus, vous êtes bon pour l'éternité. Si vous avez le mauvais Jésus, une mauvaise nouvelle. Concentrez-vous sur Jésus et vous entreverrez également le Père. Donc j'ai posé la question, est-ce que vous voulez voir Dieu? Regardez Jésus. C'est lui qui explique, c'est lui qui expose qui est Dieu le Père. Jean nous a dit, nous avons contemplé sa gloire. En partant aujourd'hui, sondez votre cœur, demandez qu'est-ce que les gens voient quand ils rentrent en contact avec nous. Lorsque vous passez du temps de qualité avec Jésus, votre famille, vos collègues, vos amis, lorsqu'ils entrent en contact avec vous, si vous passez du temps de qualité avec Jésus, ils verront Jésus briller à travers vous. Nous avons besoin que Dieu nous mélange en nous ces deux vertus de la grâce et de la vérité. Nous avons besoin d'un mélange, d'un équilibre pour être des parents efficaces, pour être des conjoints efficaces, pour être des collègues efficaces, des amis efficaces. devons nous regarder dans le miroir des 10 commandements et de la loi de Dieu pour voir que nous sommes pécheurs. De voir que nous avons besoin d'approcher Jésus et de l'accepter comme sauveur et Seigneur pour obtenir le pardon, pour être comblé de sa grâce.